Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Lucas, on va parler des matchs de samedi, puisqu'il y avait deux matchs NFL de playoffs samedi. On va commencer avec le premier d'ailleurs, qui a été le plus serré, celui entre les Chiefs et les Jaguars, 27-20 pour Kansas City. Travis Kelce s'amuse, Patrick Mahomes touché, c'est le titre sur le site. Les Chiefs n'ont jamais eu plus de 10 points d'avance. Il a fallu attendre le dernier quart avec un touchdown de Marquez Valdez-Scantling pour qu'il se détache. Le fait du match, c'est évidemment la blessure de Patrick Mahomes à la cheville, on en a parlé dans le deuxième quart, on en a parlé juste avant que tu arrives. Il est resté dehors jusqu'à la pause, il est revenu en fin de match. C'est une victoire, on va reparler un petit peu de la blessure et des conditions, Lucas, mais c'est quand même une victoire sans trop de frayeur, c'est-à-dire qu'ils sont jamais menés.
Oui, globalement, c'est une victoire sans trop de frayeur, et puis en plus, j'ai même envie de dire que c'est une victoire défensive des Chiefs, et c'est presque bien pour eux, parce que c'est un peu la question qu'on avait, parce qu'on se disait ben, l'attaque va être performante, est-ce que la défense va l'être tout autant, et au final la défense a été plutôt bonne, et bon, comme tu dis, on en parlera peut-être plus tard, mais il va peut-être falloir qu'elle soit bonne, encore meilleure que ce qu'annonçait, pour garder les chances de Kansas City. Donc c'est une victoire en effet sans trop trembler. On a rarement cru, même au moment où Patrick Mahomes se blesse, on n'a pas vraiment douté, surtout que dans la foulée, il y a ce touchdown, enfin en tout cas ce drive de 98 yards d'un quarterback remplaçant. Donc, on a vu que ça fonctionnait et en effet, ils n'ont pas beaucoup tremblé, un petit peu plus que ceux dont on va parler après, mais ça n'a pas été vraiment inquiétant pour eux.
Oui, 98 yards de Chad Henne, il faut le dire quand même, le revenant Chad Henne qu'on n'avait pas vu depuis une éternité. On va commencer par l'attaque de Kansas City quand même, ou on va commencer par la défense. Tiens, t'as raison, c'est une victoire défensive.
Une fois n'est pas coutume
en effet avec eux. Ils ont beaucoup, beaucoup mis la pression, 12 pressions, 9 quarterback hits, 2 sacks, et on sentait quand même que les Jaguars arrivaient avec un plan de jeu adapté à ça. On a eu l'impression que Trevor Lawrence devait se débarrasser très très vite du ballon.
Oui, ils ont en effet vraiment mis la pression. C'était quand même une des forces de cette défense, même si c'est vrai que ça avait jamais été aussi bon que ça, on va dire, ou du moins sur aussi flagrant que ça. Mais là, en effet, sur la ligne offensive, les Jaguars avaient beaucoup de travail. Et ça a été compliqué. En effet, Trevor Lawrence a dû se débarrasser rapidement du ballon. Et au final, bon, on a vu, il fait pas un mauvais match, hein, Trevor Lawrence. D'ailleurs, son interception arrive très tard. Mais ça a jamais été vraiment. Il y avait des flashs où quand on le voyait, hein, quand il avait du temps, il arrivait à trouver de l'espace et des choses dans le niveau, on va dire, intermédiaire ou le fond du terrain. Mais ça a été très rare, trop rare pour arriver à mettre en difficulté cette défense.
On a l'impression quand même que, on voit, il y a 5,6 yards par passe. Ça passe beaucoup derrière la ligne de scrimmage, notamment en début de match. Ils font vraiment. On sent que Doug Peterson avait travaillé son truc. C'est toujours un peu un entre-deux. C'est-à-dire que c'est un aveu de faiblesse dans les tranchées, mais en même temps, c'est une manière lucide d'approcher le truc.
Oui, c'est sûr que si ça gagne, on se dit il a réussi à s'adapter. C'est toujours la question, en fait. C'est toujours la question, et ça marche presque dans tous les sports, c'est est-ce qu'une équipe, elle doit s'adapter à son adversaire, et en se disant, au final, quand on s'adapte, c'est comme tu dis, peut-être un aveu de faiblesse, un aveu de dire on n'est pas sûr de nos forces, donc on va s'adapter, ou rester sur ce qui fait notre force, et peu importe, et ça fait notre force, donc ça peut passer contre n'importe qui. C'est vrai que Doug Peterson, là, avait peut-être opté pour le fait de s'adapter, parce qu'il se disait que sur cette cette ligne offensive, ça allait être compliqué. Ça l'a été, mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, comme tu dis, il y avait beaucoup de passes derrière la ligne de scrimmage. Travis Etienne a été utilisé. Mais le problème, c'est que quand on commence à perdre du terrain et qu'il faut avancer et de plus en plus rapidement au fur et à mesure que le chrono se réduit, eh ben, on a besoin d'un plan de jeu différent. Mmh. Et c'était trop tard déjà.
Ouais, c'est un peu... ils ont misé sur l'efficacité un petit peu les Jaguars, mais face à cette défense... parce qu'encore une fois, il faut rendre ça aussi à Kansas City, quoi. C'est-à-dire que Chris Jones, Frank Clark, tout le monde là est au point au bon moment.
Oui, et puis ce qui a été un petit peu paradoxal, ou on va dire qui montre cette force des Chiefs, la semaine dernière, les Jaguars, ils sont en grande difficulté en début de match, notamment offensivement, il y a 27-0, on le rappelle, mais parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles. Trevor Lawrence qui lance 4 interceptions, et on se dit c'est logique. Et là, alors certes, il y a 2 pertes de balles, il y a un fumble et une interception, mais qui arrivent en fin de match quand même. Et ça prouve tout de même que tout le début de match, les Chiefs ont réussi à tenir sans forcément provoquer ces paires de balles qui auraient pu être dangereuses pour Jacksonville. Ils ont tenu vraiment leur terrain, ils ont tenu en une défense, on va dire, normale. Et comme tu le dis, c'est vrai que ils ont été tous bons au bon moment, on le sait hein, désormais. Et puis les défenses de Steve Spagnuolo, c'est globalement souvent comme ça que ça se passe, c'est que ça arrive à élever son niveau de jeu. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son management? Est-ce que c'est parce que les joueurs choisis sont capables de le faire? Il y a plein de raisons possibles. Mais le fait est que les Chiefs ont rarement une énorme défense en saison régulière et ils ont toujours une défense qui monte d'un cran. Des fois ça suffit, des fois ça suffit pas, mais en tout cas elle monte d'un cran et là on l'a vu sur le premier match.
Ouais, c'est vraiment ce truc des défenses de Spagnuolo ouais, qui attendent les playoffs un petit peu pour performer. Alors on va pas dire attendre les playoffs, mais en tout cas qui performent beaucoup mieux en playoffs. Là ça a été encore une fois, moi je trouve que les Jaguars ont bien joué le coup, ils ont joué avec leurs armes, ils ont fait de leur mieux, mais en face c'est juste que c'est plus costaud quoi, tu vois, dans les tranchées là pour le coup sur le duel entre le pass rush, le front seven des Chiefs et cette ligne offensive des Jaguars, bah il y a pas match quoi.
Ouais non, globalement il y a pas eu match. Ça a été dominé, puis ça met Trevor Lawrence dans une situation où il est un peu plus en difficulté, où il faut qu'il court aussi. On le sait qu'il est capable de le faire et qu'il le fait un peu moins. Il l'a fait de temps en temps et notamment bien. Parfois il a bien fait même, mais c'est vrai que on essaye d'un petit peu d'improviser, on n'est pas serein dans ce qu'on fait et on le voit. En effet, là, il y a 20 points, mais il y en a 7, 20 points inscrits par les Jaguars, mais il y en a 7 en fin de match, dans le dernier quart-temps, de manière un peu compliquée. Il y a eu, voilà, ça a été difficile pour Jacksonville. Cette défaite est logique, et notamment de ce côté du ballon. Après, ils sont là pour apprendre aussi. Trevor Lawrence est très jeune. La semaine dernière, il fait un très bon match et ils ont réussi à se gagner presque un tour de plus, alors qu'au final, à 27-0, presque, ils ne devaient jamais y être. Ouais. Ils se sont gagnés un tour de plus, une expérience de plus, d'aller chez un adversaire qui peut être très solide. Et puis globalement, si on veut être champion de l'AFC, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir peut-être battre les Chiefs un jour ou l'autre. Hein. Donc c'est vrai que ça aide de se dire, ben, on est déjà allé là-bas, on n'a pas été ridicule, on a été bon. Maintenant, on sait sur quoi il faut avancer et peut-être que l'année prochaine, ça sera encore mieux.
Ouais, vous êtes plusieurs à le rappeler sur le chat. Je reviens à Chris Jones, hein, 15 sacs et demi en saison régulière en partant du poste de defensive tackle. C'est vrai que c'est quand même un des joueurs les plus... je ne sais pas si on peut dire qu'il est sous-coté, Lucas, mais... presque de jouer dans l'équipe de Patrick Mahomes, on en parle moins, quoi. Parce qu'il aurait ce niveau-là défensif dans une équipe où il n'y a pas de quarterback, par exemple, il serait la star de l'équipe.
Oui, ah oui, totalement. Parce qu'en effet, cette défense-là n'est pas considérée comme, et peut-être parfois à tort, hein, comme tu le dis, parce que, mais pas considérée comme l'arme principale de cette équipe, pas considérée comme une très bonne défense. C'est rarement une très mauvaise défense au final. Et en effet, je pense qu'il sort globalement de sa meilleure saison en carrière. Hein. Je n'ai pas toutes ces statistiques, mais je pense que franchement,
oui, je pense que ça
doit être sa meilleure saison. Alors comme tu dis, je ne sais pas s'il est sous-coté parce que désormais tout le monde sait qu'il est très bon, mais c'est peut-être quelqu'un dont on parle pas assez en tout cas.
Ouais, clairement, en tout cas c'est vraiment un des top joueurs là, le menu d'ISPN.
Par exemple, je ne veux pas spoiler, mais on va peut-être parler tout à l'heure des joueurs défensifs de l'année. Je ne l'ai pas forcément mis dans mon top 2, top 3, et alors que quand on voit ces statistiques-là, c'est pas déconnant.
On parle un peu de l'attaque des Chiefs. Travis Kelce, je le remets à l'écran, 14 réceptions, 98 yards de touchdown. Il a vraiment été l'attaque de Kansas City dans ce match, en tout cas dans les airs. 27 passes complétées, il y en a 14 pour lui, 35 passes tentées, il y en a 17 où il est ciblé. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on savait que les Jaguars avaient du mal à couvrir les tight ends, ils l'ont exploité à merveille, mais Travis Kelce, je veux dire, là on voit que c'est un niveau quand même assez incroyable.
Oui, déjà quand on a du mal à couvrir les tight ends en général, quand on tombe contre peut-être le meilleur tight end de la ligue et peut-être l'un des meilleurs de tous les temps, ça c'est un débat pour plus tard peut-être, mais c'est très compliqué. Lui aussi, il élève son niveau de jeu quand les playoffs arrivent. On le sait, il a une alchimie avec Patrick Mahomes qui est incroyable. Il se trouve les yeux fermés. Quand en plus on a un quarterback qui est du coup un petit peu gêné, voire beaucoup gêné par un problème physique. Et qu'on doit se rassurer avec des choses, ou alors simples, des choses qu'on peut faire les yeux fermés parce que on n'a peut-être pas la confiance de faire autre chose dans son physique. Patrick Mahomes, il se retourne vers Travis Kelce et ça marche pareil. Quand Chad Henne rentre, il sait qu'il a un joueur comme celui-ci pour sur lequel s'appuyer et pour se rendre meilleur et pour sortir de situations difficiles. Du coup, Kelce, il est pas mal visé aussi. Donc en effet, voilà, 17 cibles, 17 passes vers lui, 14 attrapés. On le voit ici, 98 yards de touchdown. C'est l'homme de cette attaque là. Il marque des touchdowns, il fait du bien, des troisièmes tentatives importantes, des touchdowns. Il est très fort, il est très très fort. Et c'est vrai qu'on se posait la question quand Tyreek il allait partir. On y a répondu toute la saison régulière. Mais c'est vrai que les playoffs font juge de paix, certainement. Et là, pour l'instant, sur ce premier match, c'est incroyable.
Est-ce que Kelce, c'est plus fort que Gronkowski pour nous? Alors, on nous demande sur le chat. C'est dur de rentrer dans ces débats-là quand même.
Ouais, c'est
Enfin,
très.
moi, c'est pas le même style en plus, quoi.
Et en plus, c'est pas le même style. Gronkowski était peut-être beaucoup plus physique. Il avait une dimension en plus de bloqueur, même si Kelce s'est beaucoup développé sur ce point-là aussi. Après, c'est très différent. Et puis, il y a toujours sur la durée d'une carrière, sur la puissance, le pic, quel pic est le plus haut aussi. Bah, c'est intéressant d'avoir ces débats-là, mais c'est difficile à y répondre.
Du côté du jeu au sol, c'était plutôt équilibré. On a souvent parlé, que ce soit pour les Chiefs ou les Bills ou les Bengals, d'ailleurs, un peu le trio là, de l'AFC, où on parlait souvent de leur jeu au sol, de l'irrégularité de ce jeu au sol. Là, pour le coup, Kansas City marque des points, 30 courses, 144 yards, ils ont essayé et ils ont plutôt réussi.
Oui, de toute façon, ils n'avaient pas le choix parce que pour l'instant, on n'y a pas parlé, on n'en a pas parlé, mais cette blessure de Mahomes, elle change beaucoup de choses dans le plan de jeu. Elle change que on a peut-être le meilleur quarterback de la ligue avec nous, donc il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on change les protections peut-être parce que il est moins capable de sortir de sa poche, d'improviser comme il le fait si bien. Il faut avoir un jeu au sol qu'on met un peu plus en avant. Et tout ça, je trouve qu'ils se sont très bien adaptés. Les Chiefs, ils sont vraiment bien adaptés. Notamment, j'ai trouvé que Mahomes était plus mis sous pression quand il était pas blessé que quand il l'était. Certainement que tactiquement, il y a eu des évolutions. Et le jeu au sol a permis de pas mettre trop de pression sur Patrick Mahomes, sur Chad Henne aussi, parce que ce drive de 98 yards, il y a de la course. Donc, en effet, c'était important de l'avoir. Ça aussi, c'était un point d'interrogation un petit peu, même si on avait vu Pacheco notamment, mais c'était un peu un point d'interrogation. Est-ce que sur la grande scène, ils sont capables d'être bons au sol? Ils l'ont été, on voit 144 yards, ça suffit pour les Chiefs. Même quand Mahomes s'est blessé, ça suffit. Une grosse centaine de yards, 130, 140, c'est très bien. On ne leur demande pas d'avoir 200, mais 140, c'est très bien.
Alors tu l'as dit, Patrick Mahomes blessé à la cheville, Chad Henne qui arrive à aller chercher un touchdown dans la foulée, Mahomes revient très limité sur une jambe, il faut le protéger. Ceci étant dit d'ailleurs, en aparté, autre symbole de la réussite des Chiefs dans les tranchées, c'est que Mahomes s'est pas saqué du tout de tout le match, même en étant sur une jambe quand même.
Oui, mais parce qu'il y a vraiment on va dire deux étapes dans ce match-là. Il y a la première où il n'est pas blessé, où il joue Patrick Mahomes, c'est-à-dire que même si la ligne offensive n'est pas toujours très imperméable, il arrive à sortir de sa poche en courant, il arrive à lancer des passes sur son premier drive, je crois. Il nous fait toute la panoplie, le Superman jump, la passe sur le côté, enfin il nous fait tout, la read option, bon bref, il fait tout. Et puis il se blesse, et puis là on se dit que ça devient compliqué parce que la ligne offensive est pas mauvaise, mais elle était parfois mise sous pression. Et là, alors en effet, il faudrait peut-être revoir ce match-là en vraiment beaucoup plus posé. Mais est-ce que Andy Reid a changé la protection? Est-ce qu'ils ont rajouté des joueurs en plus ou pas? Ça serait à observer. Mais en tout cas, j'ai trouvé que il était bien mieux protégé. Et peut-être que lui s'est adapté aussi en sachant qu'il ne pourrait pas courir, parce que globalement il pouvait pas courir, on l'a vu, il pouvait même pas marcher quasiment. Il fallait qu'il s'adapte et comme tu as dit, il a réussi à lancer le ballon très vite, il a réussi à être bien protégé et ça donne aucun sac malgré le fait qu'il avait une capacité à se déplacer très réduite.
Avoir des grands coachs, ça aide hein, des fois en NFL quand même.
Oui, en playoff, ça peut ouais, de temps en temps aider à gagner un match.
C'est pas mal. Bon, en tout cas, ce sera une des intrigues de la semaine à venir. On va terminer avec un mot sur l'intersaison des Jaguars. Quand même, le bilan pour cette équipe de Jacksonville, il est ultra positif, non, cette année?
Ah oui, totalement. Il est totalement positif. En effet, ça, voilà, ça passe un tour de playoff en plus. Bon, déjà, c'est champion de division. Ça passe un tour de playoff. Personne ne les attendait à cet endroit-là. J'ai envie de dire presque l'année dernière, on les attendait plus que cette année, dans le sens où il y avait une énorme hype sur Lorenz, sur Urban Meyer. Puis finalement, on s'est rendu compte, oui, ça prend du temps. Et en plus, quand on se trompe sur l'entraîneur, bah, ça peut prendre encore plus de temps. Et en fait, bah, cette année, c'est peut-être l'année qu'ils auraient dû faire l'année dernière. Et pour le coup, il va falloir compter sur eux. Là, à l'instant T, qui est favori de la NFC Sud l'année prochaine? Alors, il reste beaucoup de mois, bien sûr. Il y a la draft, il y a la free agency, il y a beaucoup de choses. Mais si on devait donner un favori de la NFC Sud l'année prochaine, on serait pas loin de tomber sur les Jaguars.
Bah, je trouve qu'ils ont fait l'important qui était de trouver une bonne direction. C'est-à-dire qu'ils savent, là, ils ont entamé l'intersaison, ils savent qui est leur coach, ils savent qui est leur quarterback, etc. Et maintenant, il faut renforcer autour la ligne offensive, la défense, des cibles en plus. À la limite, bon, il y a encore beaucoup de choses, j'ai envie de dire. C'est presque une bonne nouvelle, sachant que tu es déjà là, mais qu'il y a encore beaucoup de choses.
Oui, voilà, c'est vrai que voilà, il faudrait se pencher sur le roster, il faudrait vraiment analyser et voir quelle peut-être est la priorité. Mais en effet, il n'y a pas un trou. Ce sont pas les Bengals l'année dernière où on se disait c'est ligne offensive, ligne offensive, ligne offensive. Là, c'est peut-être un peu des touches en défense, en effet, des touches sur la ligne offensive certainement, gonfler cet effectif en profondeur. Ils sont en train de le gonfler en expérience, le gonfler peut-être en quantité et en qualité. Et c'est vrai que si ça continue dans la même direction, ça peut devenir des équipes qui sont très solides à partir de l'année prochaine, 2 ans, 3 ans. Et quand on a un Trevor Lawrence, comme tu le dis, le plus important, c'est le coach et le quarterback. Et pour l'instant, on a l'impression qu'ils l'ont.
Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont un renfort interne, externe, parce qu'il n'a pas vraiment encore joué pour eux, qui arrive, mais c'est Calvin Ridley. Ils ont monté un échange pour récupérer le receveur des Falcons, qui est déjà chez eux officiellement, mais qui n'a pas encore le droit de jouer, puisqu'on rappelle, il était suspendu pendant toute la saison pour avoir placé des paris sur un match. Donc en tout cas, ça va être une équipe très très intéressante à suivre. On va passer au deuxième match, le match qui est opposé Philadelphie à New York, 38 à 7 pour les Eagles contre les Giants. Alors là, forcément, en termes de suspense et de jeu, Lucas, il y a un peu moins de choses à dire au sens où il n'y a eu aucun suspense. C'est-à-dire que les Eagles menaient 14-0 après leurs deux premiers drives, 21-0 au milieu du second quart, 28-0 à la pause, vous avez l'idée. Ils étaient meilleurs partout. Comment dire, on résume ça encore une fois, une domination dans les tranchées. Parce que là, pour le coup, les stats, elles sont assez violentes. 268 yards au sol sur 44 courses, soit 6,1 yards par course. On est sur une ambiance qui est quand même NCAA, quoi.
Oui, une ambiance ainsi. En effet, oui. Alors oui, sur les tranchées, globalement, quand il y a un très bon jeu de course, ce sont les lignes. Mais en même temps, voilà, il y a du talent quand même là. Quand tu mets les joueurs, afficher les joueurs qui ont couru. Gainwell, c'est bon et c'est peut-être pas leur meilleur coureur. Miles Sanders qui fait 90 yards. Jalen Hurts, on le sait, c'est un des meilleurs quarterback coureurs. Boston Scott, qui est un joueur qui d'habitude fait beaucoup de mal aux Giants historiquement, il a été là aussi. Voilà, ils ont quatre coureurs capables de prendre beaucoup de yards, d'avoir de bonnes moyennes. Cette ligne offensive, elle est bonne. Donc c'est vrai que voilà, ils ont été dominés dans les tranchées, mais en même temps, Philadelphie, on l'a vu depuis le début de la saison, il y a du talent. Il y a du talent et offensivement, il y a encore plus de talent. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut venir de partout. Ils font un match hyper propre en attaque. C'est vrai que pff, ils n'ont jamais tremblé. 14-0, 14-0 sur les deux premiers quart-temps, on le voit au-dessus. Il y a jamais eu match, quoi.
Clairement, là, ce que tu disais, c'est le moment où l'effectif, en fait, c'est pas qu'il fait tout, mais il y a un moment où il faut te rendre à l'évidence, quoi. C'est-à-dire que là, sur ce match, Philadelphie a quoi? Un meilleur quarterback, une meilleure ligne défensive, des meilleurs defensive backs, le coureur, peut-être qu'individuellement, Barkley est meilleur, mais ils ont un meilleur comité avec plus de qualité et de profondeur. Bon, bah voilà.
Pour l'instant, j'ai presque envie de dire aussi un meilleur coach, même si Brian Daboll a été bon, mais on va le voir sur deux. Il faudrait qu'on le voit sur 2 ans.
Oui.
Là, on voit que Sirianni, lui, a réussi à faire progresser son équipe. Donc, j'ai envie de dire un meilleur coach.
Les receveurs, il n'y a même pas photo.
Et globalement, il y a meilleur
Voilà.
tout.
Voilà.
Et bon, on l'avait vu en saison régulière, on le voit aussi ici. C'est presque pour les Giants, c'est presque, on a envie de dire, c'est normal. Déjà, c'est bien d'être arrivé ici. Là, on est tombé contre bien meilleur. Encore une fois, je prends souvent cet exemple-là, je répète, mais c'est voilà, peut-être les Eagles l'année dernière qui étaient tombés contre des Buccaneers en disant c'est normal qu'ils sont meilleurs que nous et qu'ils nous éliminent. Maintenant, on a une base sur laquelle s'appuyer et si ça progresse, ça peut poser des problèmes aux autres.
c'est bien dit dans le chat, Kielvichus qui dit difficile de jauger les Eagles avec une opposition si faible. Alors je sais pas si elle est si faible, mais en tout cas c'est un match où ils ont en tout cas très totalement dominé. Je parlais des lignes parce qu'en défense ils ont saqué 5 fois Daniel Jones, ils ont complètement verrouillé le jeu au sol des Giants en début de match. Donc comment toi t'arrives à justement, est-ce que t'arrives à jauger ces Eagles, parce que on dirait que tout a fonctionné. Est-ce que t'as vu un truc qui aurait pu t'alarmer?
Bah déjà, je suis pas tout à fait d'accord pour dire difficile de juger face à une équipe faible. C'est une équipe de play-off, on est en divisional round, il n'y a pas d'équipe faible. Peut-être que les Giants font pas le meilleur match qu'ils pourraient, mais en même temps, ils jouent contre meilleur et une équipe qui a réussi à les rendre pas bon. Dabol a prouvé encore une fois que c'était un bon coach, qu'il passait pas forcément à travers des grands moments, on l'a vu la semaine dernière. Ils sont tombés contre meilleurs et je trouve pas que ce sont les Giants qui étaient mauvais. On peut pas dire la semaine dernière les Giants se sont tellement arrivés à éliminer les Vikings et font une belle performance, même si les Vikings, il y avait des choses à annonciateur, c'est quand même une équipe qui avait gagné 13 matchs qui était à 13-3 ou 13-4, je sais plus.
Ouais, quelque chose comme ça.
Et là dire les Giants, ils sont en fait ils méritent pas d'être là, ils sont pas bons. Je suis pas d'accord. Je trouve que les Eagles ont fait le match qu'on aurait aimé que les Bills ou les Bengals fassent la semaine dernière. Ouais. C'est-à-dire un match où ils sont censés être meilleurs. Sur tous les aspects du jeu, tu l'as dit, et ils montrent qu'ils sont meilleurs sur tous les aspects du jeu et qu'ils appartiennent pas à ces équipes-là qui peuvent se faire embêter. Ils appartiennent aux équipes qui visent le Super Bowl et qui vont batailler en finale de conférence, maintenant on peut le dire, et éventuellement au Super Bowl contre des grosses équipes. Ça sera pas aussi pas serré que ça, mais ils ont le potentiel pour le faire. Je trouve que voilà, les Eagles ont vraiment montré que c'était pas une équipe de saison régulière, qu'en playoff ils arrivent à faire ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison, et c'est bien pour eux.
Ils ont été impressionnants. En tout cas, Jalen Hurts qui balance une passe de 40 yards sur le premier drive, c'était aussi important parce que c'est rassurant. Il y a eu tous ces problèmes de blessures à l'épaule pendant toute la fin de saison, donc là, c'est rassurant là-dessus aussi. C'est beaucoup évoqué dans le chat notamment, tu le disais, ils vont jouer les 49ers sous les Cowboys, ça va être superbe. Ils ont l'air quand même d'avoir un des effectifs les plus complets de la ligue là, à l'heure actuelle.
Ah, globalement, si je réfléchis aux équipes qui restent, c'est vrai que il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'être plus complets. Tu t'as cité, mais le quarterback était dans la course au MVP, donc on peut considérer que c'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue cette saison. La ligne offensive est pas loin d'être la meilleure ligne offensive de la ligue. La défense, qu'on parle de la ligne défensive, je pense que c'est pareil. Si on prend la défense en général, il y a peut-être certainement que les 49ers ont une meilleure défense. Certainement que peut-être, les Bills ou les Chiefs ont une meilleure attaque que les Eagles. Mais si on prend l'équipe à chaque fois...
Encore au global, tu vois.
Et encore au global, non mais ouais. C'est vrai. Mais je veux dire, à chaque fois, ils sont peut-être deuxième partout. J'extrapole, hein, mais ils sont peut-être deuxième partout. Mais quand on fait le global sur l'équipe, ils sont premiers, quoi.
Ouais, tu vois, en termes d'efficacité par rapport aux Bills de ces dernières semaines, par exemple.
Non, mais je parlais des Chiefs, tu vois, par exemple, peut-être que les Chiefs, si on considère que les Chiefs sont
pas le même style,
que Patrick Mahomes. Mais ils ont une bien meilleure défense que les Chiefs, ils ont une meilleure attaque que les 49ers, encore que c'est vrai qu'on va peut-être voir ce soir et on prendra une décision.
C'est hyper impressionnant, hein. Dans l'ensemble c'est hyper impressionnant. Du côté de New York, donc on va faire aussi un petit bilan, ça retombe un peu sur terre forcément. Daniel Jones notamment, 15 sur 27, 135 yards, une interception. Est-ce qu'il retombe un peu sur terre ou est-ce que c'est aussi, il est aussi victime d'une situation où ils sont face à une équipe où quasiment tout est meilleur en face, il y a un meilleur pass rush donc il n'a pas le temps, il n'a pas des grands receveurs, donc même quand c'est ouvert, quand lui a du temps pour lancer, les receveurs sont pas forcément ouverts, donc
ça va être une vraie question, hein, parce qu'on le rappelle, il est libre, donc ça va être, enfin il est libre, disons que les Giants ont la main, mais qu'est-ce qu'on fait avec lui, franchise tag, on le garde, on le prolonge sur le long terme, on se dit que c'est pas le quarterback du futur, mais en même temps qui on a derrière. Ça va être une vraie question et ça va être comment on évalue ce match-là, comment on évalue le match de la semaine dernière, à quel match on donne le plus d'importance, parce que au sortir de la semaine dernière, on se dit ça fait un mois qu'il est très bon, il est bon en play-off, il est meilleur que presque Barkley la semaine dernière, c'est peut-être le meilleur joueur de l'attaque. On se dit c'est le quarterback du futur et c'est vrai que là quand on voit sa performance, on se dit on a retrouvé le Daniel Jones qui était pas forcément bon, sur qui on n'a pas vraiment confiance. Donc ça va être Ça va être compliqué. Je pense que c'est la vérité, elle se situe peut-être entre les deux. C'est un peu facile de dire ça, mais je suis pas sûr que. Je pense qu'il a vraiment progressé. Et je pense que le match d'hier, de samedi, est pas forcément révélateur d'un niveau de jeu qui a régressé ou qui revient sur terre. Maintenant, je pense qu'il est peut-être pas au niveau d'un franchise quarterback. Donc c'est toujours la question.
Tu fais quoi, toi, à leur place?
Moi, je pense que je mise sur Daboll qui semble l'avoir remis sur le sur, enfin remis sur le droit chemin, qui semble avoir compris et avoir compris comment le faire jouer. Et je mise sur le fait qu'on peut le faire progresser à 1, 2, 3 ans. Et je lui construis autour voilà, une ligne offensive. Des cibles, tu l'as dit, ça sera peut-être la priorité, parce que c'est vrai que là, tu ne montres pas ce qu'il y a en dessous, mais les noms qu'il y a en dessous,
Ah bah
ils
oui,
sont.
là.
Ouais, on parle d'un match de playoff quand même. On parle d'une demi-finale de conférence, hein. Et on parle là de Richie James, bon, Saquon Barkley, Matt Breda qui est l'autre running back. Enfin, on a des, enfin c'est, ouais, Darius Slayton, mais il est loin. Enfin voilà, donc bon, il y avait pas mal de blessés. Il y a eu un trade en milieu de saison. Enfin, donc je pense que moi je le garde. Après, c'est toujours une question d'argent, hein. Si on le garde je veux dire un salaire qui permet de construire une équipe solide autour, c'est très bien. Après, un quarterback comme ça, il n'y en a pas des dizaines non plus, donc peut-être qu'il va faire jouer la concurrence. Ça va être intéressant en tout cas de voir. C'est vrai que ce n'est pas des situations qui arrivent souvent.
Moi, j'ai l'impression que c'est les situations pour lesquelles le franchise tag est fait, non? C'est-à-dire que tu lui donnes une
Oui.
année de test.
Oui. Et puis on peut rapidement tomber dans une année de test, une deuxième année de test. C'est un peu. C'est alors Kirk Cousins qui avait été taillé deux fois, je crois, avant de partir
Oui,
à
oui.
Washington, les feux Redskins. Donc
Ouais.
c'est vrai que c'est peut-être, voilà, on le tague jusqu'à ce qu'il fasse une mauvaise saison et qu'on se dise bon bah il est pas pour nous. Mais en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup, il y a bien mieux que Daniel Jones sur le marché et qu'on peut avoir. Après, ce qui est vrai, c'est que New York peut redevenir un endroit attrayant pour les free agents, pour les parce que il y a quelque chose quand même. C'est divisional round, il y a que quatre équipes dans la conférence qui font ça.
Non, c'est sûr, mais moi j'ai un peu peur. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment la pire situation, quoi.
Ouais,
C'est-à-dire,
c'est clairement.
c'est vraiment la pire situation avec un quarterback parce que il a fait une bonne saison, mais tu sais pas si c'est le système, si c'est parce que bah, il y a le contrat qui arrive aussi, hein, mine de rien, ce serait pas le premier non plus. Je suis. C'est vraiment pas des bonnes situations, quoi. Je vais pas dire c'est la pire parce qu'il sort de playoff, etc. Hein, mais.
C'est un peu une pièce en l'air. Hein. C'est un peu une
Ouais,
pièce en
voilà.
l'air de est-ce qu'on mise sur le fait qu'il va progresser et puis on le laisse partir et puis il progresse. Enfin, c'est
On l'a
compliqué,
vu
mais c'est.
tellement de fois, c'est-à-dire que le mec, ça peut être Blake Bortles, c'est-à-dire que ben, ils avaient fait une finale de conf avec les Jaguars, etc. Tout le monde disait oui, mais c'est une bombe à retardement et l'année d'après, ça avait pas manqué, il était retombé à son niveau et voilà. Et ça peut, comme tu dis, être un mec qui va ailleurs et qui est très bon et tu le regrettes. Je suis comme toi, je pense pas que ce soit un franchise player. Parce que faut pas se voiler la face sur une année, quoi. C'est-à-dire que ça fait combien? 4 ans qu'il est là, quoi.
Oui, c'est sa quatrième saison. Après, en fait, le problème, c'est que c'est une année, mais c'est cette année avec le nouveau coach.
Voilà.
Donc, c'est le problème, c'est ça. C'est est-ce que c'est pas ce coach-là qui arrive? Et si on lui avait donné ce coach-là pendant 4 ans,
Peut-être.
ce serait devenu Josh Allen.
Peut-être.
Je sais pas.
Mais voilà, c'est vraiment un dilemme. Moi, je trouve qu'on peut avoir aucune certitude là-dessus. C'est vraiment vouloir se donner un genre que de dire, moi, je sais, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça et tout. En vrai, on sait pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, Jones peut être à nouveau catastrophique ou très mauvais ou ne pas confirmer même avec des bons receveurs. Comme en effet, il peut être très bon si on lui donne du matos comme Josh Allen, comme voilà. Mais c'est un vrai dilemme.
Je vais te dire, je suis pas sûr qu'à New York on le sait beaucoup plus, hein, parce
Non.
que c'est pas forcément des situations dans lesquelles même le front office aime être. Donc, s'il pouvait faire autrement, je pense qu'il l'aurait fait. Mais à mon avis, ils ont pas vraiment. Je pense qu'il va falloir tout mettre à plat, que ce soit avec le coach, même avec lui-même. Ça va être. Mais c'est bon. Nous, en tant qu'observateurs, je pense que ça va être intéressant à
Ouais.
suivre et ça va donner du piquant à la saison d'après et celle d'après, celle d'après.
Pour moi, en tout cas, c'est vraiment la situation type franchise tag 1 an et fais tes preuves, quoi. Ça me semble. Je le vois pas en position de force de faire grève pour réclamer un contrat longue durée, tu vois, ce serait quand même assez gonflé là pour le coup, mais parce que après voilà, il faut répondre à la question que vous posez beaucoup sur le chat. Si tu gardes pas Jones, tu prends qui? C'est aussi ça le problème.
Et c'est ça, alors oui, bien
T'as pas
sûr, on
grand-chose.
parle des Derek Carr,
Voilà.
bon, c'est...
À part si tu flashes de dingue sur un prospect qui est au troisième tour de la draft, mais que tu penses être incroyable, quoi. Comme les, comment dire, comme les Seahawks à l'époque de Russell Wilson qui arrive, qui est un deuxième ou troisième, et qui plante Matt Flynn qui venait de signer au camp d'entraînement pourtant. Qui était censé être le titulaire cette année-là, et qui avait même pas passé le camp d'entraînement. Mais bon, voilà, ça arrive aussi une fois tous les 20 ans, quoi.
Oui.
Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà pour les matchs de samedi. Il y avait beaucoup de choses à dire.